rencontre aujourd'hui avec Charles Noyétas, marxiste, communiste, cheminot qui, sous l'impulsion de ses camarades résistants, a adhéré au Parti communiste en 1958 à l'âge de 19 ans. Une vie de militant, aujourd'hui, dans cette rencontre de la semaine.
Je suis né en 1939, 15 jours avant la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale. Je suis né à Saint-Jean-d'Angély. C'est une sous-préfecture de Charente-Maritime. Enfin, à l'époque, c'était la Charente inférieure. Et j'ai été élevé dans les bombardements, je ne m'en souviens plus très bien, mais voilà. Ma mère était couturière et mon père était plâtrier. Après les bombardements, nous sommes allés à Royan, parce que Royan, la ville a été rasée par les Alliés d'ailleurs, hein, un bombardement qui, à mon avis, à l'avis de beaucoup de personnes, ne se justifiait pas après la guerre. Il a été bombardé, alors que la ville était sur le point d'être libérée par les maquis de Dordogne. La ville a été bombardée, rasée par les Anglais et les Américains. Et après, il a fallu bien sûr la reconstruire. Et comme mon père était plâtrier, on a tous été à Royan et voilà.
Et votre maman, couturière à domicile ou...
Oui, couturière à domicile, oui, parce que j'avais un frère, je l'avais maintenant, le pauvre, il est décédé, mais qui avait un an de moins que moi. Et puis nous, avec mon frère et moi, l'été, comme c'était Royan et que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, l'été, on était envoyés chez des commerçants. Moi, c'était un des commerçants de Saint-Palais-sur-Mer qui m'hébergeait, me nourrissait, et tout l'été, je faisais les livraisons pour lui avec un vélo et une remorque. Et puis, je couchais sous un escalier, comme un chien. Là, j'avais 12 ans la première fois. Et la dernière fois, c'était juste... J'avais passé le concours pour rentrer au chemin de fer. J'avais été reçu premier au concours du chemin de fer et premier au certificat d'études du canton. Et donc là, j'ai dit, maintenant, je veux un lit. Pas coucher sous l'escalier. Et mon père avait été intransigeant, il avait dit ça, faut lui donner un lit. Et puis, c'était Madame Lécureux, elle s'appelait, qui dirigeait c'était une grande épicerie de Saint-Palais, et j'ai continué à coucher sous l'escalier. Et là, je me suis révolté. Un matin, quelques jours après mon arrivée chez eux, j'ai démonté parce que c'était mon vélo en plus qui servait pour traîner leur commission, mais la remorque était à eux. J'ai démonté le crochet qu'ils installaient sous la selle de mon vélo et j'ai dit à la dame, c'est fini, terminé, vous ne me verrez plus. Et je suis parti et j'ai fait ma première grève et elle a été illimitée. J'avais 14 ans, c'était 14 juste ans. Avant de rentrer au chemin de fer.
Et déjà, vous avez cette idée de rentrer au chemin de fer quand étiez là?
Oui, parce que je voyais, à Royan, nous habitions pas très loin de la gare, mais Royan est précédé de marais, il y a des marais salants là, un peu, et il y avait des fours à chaud aussi. Et on allait jouer au cow-boy là-dedans avec des copains. Et là, la voie de chemin de fer passait là pour desservir Royan. Et là, on voyait passer des locomotives à vapeur. Et j'étais en admiration devant ces engins. J'avais un instituteur, M. Papeau, qui avait été député communiste de Royan à la Libération. Il avait été élu. Et lui, il nous parlait de la résistance, bien sûr. Il nous parlait de toutes ces choses, du fascisme. Et j'ai été premier du canton, et tous les ans, c'était de son école que sortait le premier du canton. C'était pas un instituteur à la manque. C'était vraiment un militant, oui.
Alors, vous avez 14 ans, vous rentrez à l'école...
À 14 ans au chemin de fer. J'étais apprenti à Sainte, dans la ville de Sainte. Là, il y avait un grand centre ferroviaire. Et là, j'étais apprenti, j'ai appris le métier de chaudronnier, voilà. Et après... chaudronnier, ça menait directement aux locomotives à vapeur, puisque c'était leur entretien. Et là, j'ai demandé à aller sur ces locomotives, mais il fallait avoir au moins 18 ans pour pouvoir... Donc, j'ai attendu mes 18 ans. Et dès que j'ai eu 18 ans, je suis allé comme chauffeur sur les machines à vapeur.
Alors, pendant 4 ans, chaudronnier.
Oui.
Alors, ça, on n'est pas sur les locomotives, là.
Non, on les répare.
D'accord.
On les répare, la chaudronnerie. Voilà.
Et à partir de 18 ans, vous montez enfin dans la locomotive. Alors, la première sensation, là, quand on est...
En plus, j'étais tombé avec Mochefer. C'était un mécanicien. Son frère avait à l'époque, jeter, il disait comme ça, hein, je le répète, mais c'est, il avait mis un boche dans le poêle. Ils avaient été obligés d'en tuer un, et pour le faire disparaître, ils l'avaient mis dans la chaudière. Mais bon, ça ne marche pas, ce truc-là. Ça, au cinéma, ça va, mais... Et donc, ce monsieur a été, aussitôt à l'arrivée du train, il a été pris, il a été fusillé. Et c'est son frère qui m'a appris, M. Mochefer, qui m'a appris le métier. Alors, c'est pour vous dire que là aussi, c'était pas... Écoutez, moi, j'ai été élevé avec des gens extraordinaires, des gens simples, honnêtes. Je vais vous dire, j'en ai encore le souvenir.
C'est... Alors, donc, ce souvenir-là, vous êtes dans la machine. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? On voit, comme on voit dans les films, là, on prend le charbon à la pelle.
Oui, 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 bien sûr, mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'une locomotive... Il y a une locomotive et il y a un train d'air. Et entre les deux, il y a des plaques qui font passerelles et qui n'arrêtent pas de bouger au gré des... Et c'est très difficile de tenir en équilibre et de rentrer la pelle de charbon dans le foyer. C'est tout un art, hein, je vous assure. Et en plus, il faut que le charbon aille exactement où il faut. Il ne faut pas faire un tas de charbon au milieu du foyer. Faut que ça se... et là, j'ai appris ce métier-là. Et mon premier train, ça a été d'aller de Saintes à Angoulême sur une Pacifique. Alors, les Pacifiques du dépôt de Sainte, c'était des vilotos. C'était des Pacifiques un peu spéciales. Elles avaient les roues plus petites que celles que j'ai connues ensuite au dépôt des Batignolles. Mais parce que là-bas, les voies SNCF, les rails, étaient beaucoup plus tordus. Enfin, il y avait beaucoup... Les courbes étaient plus serrées. Et avec des grandes roues, les grandes roues ne pouvaient pas s'inscrire dans les courbes. Donc, avec les bielles, hein, parce qu'il y a des bielles sur une locomotive, ça ne s'inscrit pas comme ça. Et donc, on avait des vilotos. On les appelait les petites gazelles. Ah, c'était des machines extraordinaires. Extraordinaires. Elles ne pouvaient pas tirer très, très lourd, mais ce qu'elles tiraient, c'était toujours... À l'époque, les locomotives à vapeur, on tractait tous les trains. Tous les trains, aussi bien dans la gare pour faire les manœuvres que... Il y avait beaucoup les trains d'huîtres. Hein. On allait souvent à la Tremblade chercher des trains d'huîtres. Il y avait aussi les trains de... on allait à Coutras, où là, on traversait la forêt. Et on prenait des trains de bois complètement. Ou alors, on allait à Blaye, et là, on faisait des trains de vin. Des trains citernes. Et puis, on faisait le TT aussi. Le train qui arrivait à Bordeaux, c'était le train des travailleurs. Et donc, on ramassait tous les travailleurs sur le parcours et on les amenait à Bordeaux avec une locomotive qui datait de 1900. Enfin, une des locomotives. Il y en avait plusieurs. Hein. C'était une 230B. Pour ceux qui... Oui. S'il y a des auditeurs qui
bien
connaissent
sûr,
ça.
Bien sûr.
Avec un foyer rond. Oui. Et là, on arrivait, je me rappelle, j'avais la honte de ma vie, on arrivait là-dedans avec une locomotive. Il y avait des garde-boue sur les côtés, c'est pour vous dire comment elle était vieille. Hein. Et on arrivait à côté de la fameuse machine qui venait de battre le record du monde de vitesse dans les Landes. Et on arrivait à côté. J'avais honte, mais il ne fallait pas.
Bien sûr. Ça a duré combien de temps, ces locomotives? Vous les avez conduites pendant combien de temps?
J'ai conduit les locomotives à vapeur pendant 9 ans. Alors, à l'époque, la durée moyenne du travail ne devait pas excéder 8 heures par jour de travail. Et 48 heures par semaine. Hein, c'était la semaine de 48 heures par semaine et 8 heures par jour, en moyenne. Mais comme sur un train, vous ne pouvez pas faire que 8 heures. Il y a des jours où vous allez faire 7 heures. Ben, si le train il roule 7 heures, ce n'est pas la peine. On veut pas. Donc, la moyenne était calculée sur un trimestre civil. Mais on pouvait faire des journées qui avaient 11 heures de travail. On ne devait pas dépasser 11 heures de travail.
Et alors, quand vous arriviez, donc quand vous, au bout de 11 heures, vous aviez fait je ne sais pas combien de kilomètres, donc vous restiez dans le lieu d'arrivée?
Oui, on restait dans le lieu d'arrivée, voilà. Oui. On découchait, on appelait ça un découché. Alors, on traînait avec nous dans un gros sac. Vous avez vu, moi, je l'ai gardé longtemps, mon sac, et dans lequel on mettait... le pyjama, la trousse de toilette, le nécessaire de... Enfin bref, à manger, un, deux, voire trois repas, des fois, le drap, parce que la SNCF fournissait le lit, mais pas les draps. Fallait traîner le drap, c'était un sac énorme. Alors, quand on était à la maison, fallait un repos d'au moins 14 heures, chez nous. Mais quand on était hors résidence, c'est-à-dire à Bordeaux, où vous voulez, on n'avait que 8 heures de repos. Ça pouvait être un peu plus, mais au minimum 8 heures. Non, c'est pas beaucoup, parce que le temps de prendre la douche et tout le bazar... Bref, c'était comme ça.
Est-ce qu'il y avait des canicules comme aujourd'hui?
Je me souviens pas. Non, je me souviens plutôt du froid.
Alors voilà, vous vous souvenez plus du froid que du chaud.
Oui, Ah oui, parce que chaud, on avait toujours chaud là-dedans. Mm-hmm. Dans le foyer, il y avait ça montait à 400-500 degrés, hein, mm-hmm. la température. Mm-hmm. Et nous, on était là, alors... on avait le dos, quand il neigeait, on avait le dos avec la neige et le ventre du foyer à 500 degrés de vent. Et là-dedans, ben, on avalait beaucoup de poussière de charbon et beaucoup d'amiante, parce que tous les tuyaux étaient recouverts d'amiante. Et le crochet qui nous servait, ça s'appelait le ringard, qui nous servait à étaler la braise dans le foyer, on le tenait avec des torchons d'amiante et on le posait sur l'épaule. Donc on se mettait un torchon d'amiante sur l'épaule, un autre dans les mains, et on respirait ça. Là, ça s'usait à la vitesse grand V, et on respirait ça. Et moi, vous savez, on était 11 quand j'ai commencé mon métier là-dessus. Et on était 11. Et on avait, entre l'aîné et le plus jeune, c'était moi le plus jeune. On avait 4 ans de différence. Et les 11... Le dernier, il y a 11 ans qu'il est mort. Tous, ils sont partis bouffer. Et tous, à part un qui a eu un accident de voiture, tous les autres, c'est l'amiante et le charbon qui les ont tués.
Oui.
Un mécanicien sur une locomotive à vapeur, il faut vous rendre compte quand même qu'on produisait l'énergie. Mmh. La vapeur, il fallait la faire. Mmh. On avait de l'eau et du charbon pour la faire, mais il fallait produire l'énergie. Ensuite, il fallait l'utiliser pour tirer les trains, chauffer les rames, enfin faire un tas de choses. Et quand on était en panne de biel, de n'importe quoi, on dépannait. On ne faisait pas appel à qui que ce soit. On avait tout un outillage à bord. Mmh. Et on dépannait. Il fallait vraiment que la machine soit dans un état pas possible pour qu'on ne finisse pas. À l'époque, les trains, ils arrivaient d'une façon ou d'une autre. Et donc, on était des mécaniciens. Et les gens, ils tenaient beaucoup à ça.
Alors ça, ça a duré 9 ans avant que vous partiez au service.
Ah non, non, non. Je suis parti
9
au
ans
service.
Vous avez fait 9 ans de conduite.
Voilà, oui.
Voilà.
Mais
et
je
après...
suis parti au service militaire à 20 ans, comme tout le monde
oui,
à l'époque. Hein.
Oui, oui, donc en 59.
Je suis parti en 59. Voilà.
Donc là, alors vous m'avez dit, ce service militaire, il y a quelque chose s'est passé là. Vous avez déserté.
J'avais passé l'examen pour être conducteur de locomotive à vapeur. J'avais passé l'écrit, mais il me restait l'oral à passer. Et quand j'ai été mobilisé, à 20 ans, je n'avais pas encore passé l'oral. Mais j'avais déjà une fille. On s'est mariés très jeune avec
d'accord,
une épouse,
oui.
Mais on avait déjà une fille. Et, bon. Et donc, j'ai été sélectionné pour être EOR. Officier de réserve. Parce qu'à l'époque, il y avait des tests avant de rentrer au service militaire qui décelaient les gens qui étaient en capacité de devenir officier.
Voilà, qui avaient fait un peu d'études, quoi.
Voilà. Mais moi, je n'avais pas fait d'études.
Bah, quand
hein,
même,
enfin,
vous aviez le certificat, etc.
Oui, mais je me suis retrouvé qu'avec des gens qui étaient docteurs, qui étaient...
Ah bon
oui, avocats, je ne sais plus
mais quoi. Mais enfin, bon, vous aviez été sélectionné,
oui,
en tout
j'ai
cas,
été voilà. sélectionné, bon, pour être... voilà. Et je leur ai dit, mais moi, je ne savais pas ce que je faisais au milieu d'eux. Et je leur ai dit, mais comment ça se fait que... qui me refuse, parce qu'on m'a refusé la permission pour aller passer l'oral. J'aurais passé le bac, le brevet, le CAP, oui. le n'importe quoi qui était dans leur listing. J'avais la permission,
mais là,
comme
non.
là,
d'accord.
ça ne figurait pas. Conduire les locomotives à vapeur, ça n'existait pas dans leur listing. En plus, j'étais le plus jeune, hein, puisque quand j'ai été nommé, la vie du rail a écrit que j'étais le plus jeune mécanicien de France. Donc, c'est vrai qu'ils pouvaient être surpris. Mais en attendant, bah, ils m'ont refusé la perme. Et moi, je suis parti, parce que je ne voulais pas faire être officier, ça ne m'intéressait pas du tout. Par contre, conduire les trains, ça, ça, oui, je voulais le faire. En plus, j'avais connu des gens tellement extraordinaires, par comparaison à ceux que je rencontrais dans l'armée, que là... Et donc, pour être mécanicien, donc, j'ai passé le... Ouais. Alors, je suis parti en fausse permission. Voilà. J'ai passé mon oral, j'ai été reçu, d'ailleurs, très bien. Mais quand je suis revenu à la caserne...
Ah oui, vous êtes quand même retourné à la caserne.
Ah bah, quand même, bah oui, moi je désertais pour passer l'examen.
Oui, juste pour passer l'examen.
Pas pour,
alors qu'est-ce qu'on vous a dit alors?
Eh ben, j'ai dit bonjour, ils ont fait le reste. C'était à Agen, on m'a mis deux gendarmes et les menottes, et puis on m'a déporté au fort de Bicêtre à Paris. Je suis d'abord allé 15 jours en cachot, parce que déserteur, et comme j'avais fait signer des pétitions avant d'être mobilisé pour la paix en Algérie... ça n'a pas plaidé tellement ma cause, mais bon. Mais j'ai eu un avocat excellent qui a été désigné d'office. C'était un appelé d'ailleurs comme moi. C'était un noble. Je ne me rappelle plus de son nom, mais je sais que c'était un noble. Je me suis dit, quand j'ai vu son nom, j'ai dit, oh là 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 là, moi, le jeune coco, il va sûrement me... Pas du tout, il a fait un truc extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Et au tribunal, ça faisait 2 mois et demi que j'étais en prison quand j'ai été jugé au Mont-Valérien. Et on m'a dit, condamnation, 2 mois et demi de prison. Donc
vous êtes sorti libre.
Oui.
Enfin, libre. Vous avez fait votre service quand même.
Ah, oui, j'ai fini mon service.
Et ça a duré combien de temps?
24 mois. 26 mois.
26 mois. Enfin, bon, vous avez fait 22 ou 23 mois donc, de service. Et c'était où, ça, le service?
Moi, j'ai fait les premiers. Le EOR, j'étais à Agen. Ensuite, comme j'avais déjà un enfant, je ne pouvais pas aller en Algérie. On m'a envoyé à Noâtre, dans une caserne qui réparait les groupes électrogènes. Comme j'étais chaudronnier, je réparais les groupes électrogènes.
C'était un parcours de vie avec Charles Noyétas, marxiste, communiste, cheminot. Et nous le retrouverons la prochaine fois, en février 1962, manifestant à Charonne pour la paix en Algérie et contre les attentats de l'OAS.